Chapitre 16. Saladin reconnaît l'ennemi, le duc de Chavès. Nous n'avons pas d'autre prétention que d'offrir Saladin au lecteur comme un animal très curieux, pris sur le fait avec ses côtés défaillants et ses côtés puissants. Il venait de la foire, ce pays joyeux et gouailleur. Il n'était ni gouailleur ni joyeux. Et ces bonnes gens, à l'aspect grotesque, à qui nous avons coutume de jeter en passant un regard distrait et dédaigneux, vivent dans un milieu pauvre, mais qui participe à la féerie. 9 sur 10 parmi eux croient pour un peu à leur paillette. Saladin ne croyait à rien, et cependant il subissait avec une certaine énergie l'effet rétrospectif de l'oripeau. Il avait gardé, il devait garder toujours, cette puérile vanité qui est un peu la maladie de tous les comédiens. Vous l'eussiez passé à la lessive sans lui enlever l'emphase qui est l'éloquence même des tréteaux. Il se croyait pétri d'esprit et ne se trompait pas tout à fait. Il avait du moins l'esprit d'intrigue au plus haut degré, la patience et la volonté. C'était un petit homme, mais il y avait en lui quelque chose de tranchant comme l'éperon qui taille le chemin des navires dans les glaces. Soit pendant qu'il était encore dans l'établissement Canada, soit depuis qu'il l'avait quitté, le travail solitaire opéré par lui peut sembler énorme, malgré son résultat incomplet. Il s'était fait à lui-même une éducation, mal dirigée sans doute et mal conduite, mais qui comprenait, en somme, tout ce qu'un civilisé doit savoir. Il était allé plus loin, ne doutant de rien, comme tous ceux qui n'ont pas la plus légère idée des choses. Il s'était imaginé qu'on pouvait connaître le monde en regardant autour de soi. Cette vérité que le monde n'est visible que d'un certain point, sous un certain angle et à travers un certain milieu, échappe à beaucoup de gens plus expérimentés que Saladin. J'ai lu parfois dans les livres des descriptions de salons qui semblaient avoir été écrites en foire. La prétention principale de Saladin, après tant d'efforts, était un homme accompli au point de vue du monde. Il se comparait en lui-même à Alcibiade, pouvant parler toutes les langues et jouer tous les rôles, et comme il s'observait lui-même sans cesse, il mesurait avec orgueil les différences de son langage, quand il causait avec Similor, par exemple, ou quand il posait en sorcier dans le boudoir de Madame la Duchesse de Chavès, car Saladin avait franchi le seuil d'une grande dame et il était sorti vainqueur de l'épreuve. L'aplomb consiste à ne pas voir les ridicules qu'on a. La timidité n'est qu'une clairvoyance plus ou moins exagérée qui donne à la vanité malade les apparences de la modestie. Saladin, déguisé purement et simplement en homme du monde, n'eût été qu'un comique d'assez bas étage, mais Saladin, trouvant l'occasion de jouer au Rose-Croix, bénéficiait de son ridicule même. Les grandes douleurs sont crédules, les grandes passions sont superstitieuses. En face d'elles, il n'est souvent rien de tel que d'avaler des sabres. Tous les charlatans savent cela. Il y a d'ailleurs dans le monde des choses plus faciles à exécuter par un sauvage que par un homme du monde, par cette raison toute simple que les aveugles ne sont jamais sujets au vertige. Saladin devait réussir. Il n'avait aucune des fantaisies qui allongent la route, aucun des besoins qui barrent le chemin. Il était très sobre, et ce frémissement qui fait vibrer la jeunesse à l'aspect d'une femme lui était complètement inconnu. Il n'allait pas par saut et par bond, son allure était l'amble qui dure, et il avait pour se tenir en haleine cette fièvre froide des vrais avares qui n'ont d'autre but que la possession même. Saladin désirait l'argent pour l'argent. C'était un calculateur étroit, un ambitieux sage qui voulait amasser d'abord pour arrondir ensuite son pécule, le doubler, le tripler, et ainsi de suite. Ces avares naïfs deviennent rares. Ils sont dangereux en ce qu'ils grattent leurs trous avec une lenteur acharnée, comme le ver qui a raison du bois le plus dur ou la vrille qui perce jusqu'au fer. Sa force était dans ce fait énoncé par lui-même et qui résumait l'exacte vérité. Il n'avait jamais eu qu'une idée depuis l'âge de raison. Il suivait une affaire, romanesque au début, mais à laquelle sa persistance donnait une base réelle. Il avait travaillé en vue de cette affaire, et non pas pour autre chose. Sa conduite vis-à-vis de Mademoiselle Saphir, calculée avec une audacieuse prudence, se rapportait à son affaire. Dans les premières années qui suivirent l'enlèvement de Petite Traînée, alors que personne ne faisait attention à lui, il avait trouvé le moyen de quitter plusieurs fois la baraque et de pousser des pointes jusqu'à Paris, accomplissant pour cela de véritables voyages. C'était ici son élément, la petite ruse, le travail de furet. Il avait battu le quartier Mazas pouce à pouce et, bien sûr, de n'être pas reconnu, il était parvenu à savoir par les voisins, par Madame Noblet, par les bas employés du bureau de police, tout ce qui se pouvait apprendre au sujet de la Gloriette. Son nom, le genre de vie qu'elle avait menée, son départ mystérieux et jusqu'au nom, que personne ne savait, de l'homme qu'il avait enlevé. Ceci était le principal et c'était un chef-d'œuvre d'induction. Saladin avait un souvenir très vif de l'étranger qu'il avait arrêté au guichet de la rue Cuvier le jour du vol de l'enfant. D'après les récits des voisins, il ne doutait pas que cet homme fût l'auteur de l'enlèvement. Pour savoir son nom, il dépensa une semaine et tout l'argent qu'il avait à désaltérer le garçon du bureau du commissaire. Celui-ci ne pouvait lui apprendre ce qu'il ignorait lui-même, mais à force d'interroger, Saladin finit par tomber sur le mot de l'énigme. Il y avait un homme qui avait proposé des primes pour activer la recherche de l'enfant, et cet homme s'appelait le duc de Chavès. Saladin ne demanda plus rien et cessa de rôder dans le quartier Mazas. Depuis lors, il s'assit en face de cet unique problème, retrouver le duc de Chavès. Ses premières investigations le convainquirent d'un fait qu'il avait deviné, le duc de Chavès était puissamment riche. Mais il avait quitté la France avec toute sa maison au mois de mai 1852, et Saladin, malgré toute sa diplomatie, n'avait aucun moyen d'explorer le nouveau monde où monsieur le duc s'était rendu. Il patienta sans abandonner un seul instant son rêve. Le temps remplace l'outil. Un prisonnier peut desceller une pierre de taille avec un clou et couper un barreau d'acier avec un cheveu, s'il y met le temps. La confrérie des artistes en foire, sans être organisée comme celle des francs-maçons, a des tenants et des aboutissants qui allongent parfois son pauvre bras jusqu'aux confins de l'univers. Telle hardie virtuose du trapèze traverse parfois l'océan, et l'homme à la poupée alla, dit-on, une fois jusqu'à la Nouvelle-Galles du Sud, porter aux Australiens le bienfait de la ventriloquie. Après des années de vains efforts, Saladin eut tout à coup des renseignements les plus complets sur cet inconnu, ce grand du Portugal de première classe, ce duc, parent de la maison royale de Bragance, dont il avait tout bonnement résolu de se constituer l'héritier. Monsieur le duc de Chavès était marié en seconde noce à une Française qui avait le mal du pays. Il prenait ses mesures pour opérer la vente des immenses domaines qu'il possédait au Brésil, dans la province de Pará, et songeait à revenir en Europe. Ce fut un jour solennel dans la vie de Saladin. L'horizon fantastique de son plan se rapprochait à vue d'œil. Dans le paroxysme de sa joie, il commit sa première et sa dernière imprudence. Jusqu'alors, il avait agi sur le cœur et l'imagination de sa fille au moyen de leviers parfaitement appropriés à l'état intellectuel de la jeune fille. Ce n'était pas un amoureux que cet utilitaire Saladin, mais ça aurait pu être un suborneur s'il y avait vu son intérêt. Son affaire se présentait à lui en ce temps-là sous la forme d'un mariage entre lui et l'héritière unique de monsieur le duc de Chavès. Pour en arriver là, il fallait se faire aimer. Saladin n'en était pas à entamer cette besogne, et s'il n'avait pas choisi pour entraîner sa future amante des lectures plus enflammées que les pages enfantines écrites par le citoyen Ducray-Duménil, c'est qu'il était prudent d'abord, et qu'ensuite il n'était pas très fort en littérature. N'oublions pas d'ailleurs qu'il s'attaquait à une enfant, et qu'entre tous les produits du génie humain, Alexis ou la maisonnette dans les bois, Victor ou l'enfant de la forêt, et autres sont les plus propres à exalter les imaginations naïves dans la question des mères perdues et retrouvées. Saladin était, comme tous les mauvais sujets honoraires, timide et gauche, par conséquent brutal, quand il se contraignait lui-même à montrer de la hardiesse. Souvenons-nous en outre qu'à l'âge de 30 ans, il ne devait point avoir de barbe. Tant qu'il parla de la sainte que sa fille voyait en son rêve, de la mère vaguement adorée, il fut éloquent, et sa fille l'écouta avec des larmes dans les yeux. Quand il voulut plaider pour lui-même, il devint imprudent, et une terreur instinctive s'empara de la fillette. Nous savons le reste. Saphir s'enfuit hors de sa cabine et vint se mettre sous la protection du couple Canada. Mais c'est ici que la véritable valeur de notre héros se révèle. La situation se présentait dure, honteuse, insoutenable. Tout autre eût courbé la tête. Saladin la redressa. « Il s'agit d'avaler un sabre, dit-il à Similor, ému par la solennité de la convocation. « Papa Échalot et la Canada veulent nous faire des misères. C'est l'occasion d'entreprendre un voyage dans la capitale avec argent de poche et pension viagère que je me charge d'obtenir. Fais le mort, c'est moi qui ai la parole. » Similor était déjà subjugué. Il fit le mort et nous avons vu comment Saladin conquit une somme de 1 000 francs avec une rente de 100 francs par mois. À Paris, Saladin attendit bien plus longtemps qu'il ne l'avait craint. Le duc et la duchesse de Chavès étaient revenus en Europe, mais par un caprice singulier, dont le lecteur devinera les motifs, la duchesse entraîna son mari dans un voyage sans fin à travers nos provinces. Ils faisaient leur tour de France, allant de ville en ville, comme des compagnons du devoir. Saladin, qui ne se doutait pas de cela, fouilla Paris pendant 3 ans, stupéfait de ne trouver aucune trace. Il fit comme ces généraux habiles et prudents qui emploient les heures à l'attente à fortifier leur position. C'était un Wellington que ce Saladin, et le précautionneux héros de l'Angleterre eut admiré les lignes et les défenses qu'il traça autour de son affaire. Son affaire changea du reste 10 fois d'aspect et de tournure, bien que ce fût toujours la même affaire. Il la fit virer sur son axe. Il la considéra sous 20 jours différents, il la posséda si absolument qu'en bonne conscience, les millions de monsieur de Chavès ne pouvaient lui échapper sans injustice. Il ne s'agissait plus que de rencontrer l'ennemi. Voici comment Saladin trouva enfin l'occasion de venir aux mains. Il faisait à la bourse, en qualité de coulissier, pour une somnambule supralucide qui demeurait rue Tiquetonne et qui se nommait Madame Lubin. L'affluence des somnambules aux environs de la rue Tiquetonne est un des plus curieux mystères de Paris. Un matin, Madame Lubin l'accosta, radieuse, sous les grands arbres de la rue de la Bourse et le chargea d'une série d'opérations en lui disant « J'ai déniché une dame qui a égaré un petit bracelet de 30 sous et ça me vaudra ma richesse. » Saladin, toujours en présence de son idée fixe, resta frappé par ce mot. Le soir, entre chien et loup, il alla chez la somnambule sous prétexte de lui rendre compte de ses achats et ventes. La bonne femme était tout occupée encore de son aubaine. « L'affaire est belle, dit-elle, quoique la dame soit venue en fiacre avec une manière d'échapper de collège, un mignon garçon, ma foi. Nous avons des personnes qui me détestent par la jeunesse, mais celle-ci est si jolie, si jolie. Vous savez, pas d'âge, entre 28 et 38, on ne sait pas. Le jouvenceau s'appelle le comte Hector de Sabran. » « Et la dame ?» demanda Saladin, à qui l'échappée de collège importait peu. « Nisquette, répondit Madame Lubin, ça donne pas volontiers son nom et son adresse. On doit revenir dans 3 jours, et si j'avais quelque chose de nouveau auparavant, je dois le faire savoir au petit comte Hector, grand hôtel appartement numéro 38. On a laissé 3 louis. » Quand Saladin se trouva seul dans la rue, après avoir quitté Madame Lubin, il était ému comme à l'approche d'un grand événement. Il rentra chez lui et passa une nuit blanche à creuser son affaire, semblable à l'avocat qui repasse ses dossiers à la veille de l'audience. Le lendemain matin, il sortit avec Similor, qui le questionna en vain sur sa préoccupation. Il ne lui dit pas une parole jusqu'à l'angle du boulevard et de la rue de Chaussée-d'Antin. Arrivé là, il lui mit la main sur l'épaule. « C'est pour monter une petite mécanique, » commença-t-il d'un air dégagé. « Ce n'est pas grand-chose, mais il faut que ce soit mené joliment. Tu vas entrer au grand hôtel, ici près, et tu vas demander monsieur le comte Hector de Sabran. » « Monsieur le comte Hector de Sabran, » répéta Similor pour se mettre le nom dans la tête. Saladin lui tendit un carré de papier où il avait écrit lui-même « Comte Hector de Sabran, grand hôtel. » « Ce jeune homme, continua-t-il, est au numéro 38. Tu frapperas à sa porte. Si c'est lui qui t'ouvre, tu lui diras « Est-ce à monsieur Guinguenot que j'ai l'honneur de parler ?»« Comme dans les vols au bonjour, » interrompit Similor. « Juste. Mais c'est une opération de commerce en tout bien tout honneur. Si c'est au contraire un domestique qui se présente, tu demanderas à monsieur le comte. »« Tiens, tiens, » dit Similor, « pourquoi ça ?»« Parce qu'il faut que tu vois monsieur le comte en personne. Ta mission n'a pas d'autre but que de le bien voir pour le reconnaître plus tard. »« Tiens, tiens, » répéta Similor, « tu m'intéresses. Après ?» Saladin poursuivit. « On te fera entrer, tu regarderas le jeune homme, tu prendras l'air étonné et tu diras « Ah, pardon, ce n'est pas vous, c'est monsieur le comte Hector que je demande. » Il me répondra « Mais c'est moi qui suis le comte Hector. » Et tu riposteras « Ah, alors je suis volé. » Tu tireras ta révérence et tu disparaîtras, à moins qu'on ne te demande des explications. Auquel cas, s'empressa de dire Similor, j'expliquerai comme quoi un particulier est venu à la boutique acheter ceci ou cela en se faisant passer pour monsieur le comte. Ce n'est pas malin. Après, mais c'est tout. Marche. Et Similor entra sous la voûte du grand hôtel. Saladin avait eu soin de lui faire faire sa toilette, et d'ailleurs, le grand hôtel n'est pas à l'abri de recevoir de temps en temps quelques figures hétéroclites. Saladin croisa sur le boulevard en l'attendant. Au bout de 10 minutes, Similor revint avec cet air triomphant qu'il avait même les jours où il était battu. « Fait, dit-il, monsieur le comte Hector est un jouvenceau très joli qui a été bien fâché quand il a su qu'on avait levé chez nous 3 paires de bottes vernies à son nom. Et tu es bien sûr de le reconnaître. Oh, quant à ça, oui !» Saladin le fit asseoir sur un banc en face de l'entrée du grand hôtel et s'y plaça près de lui. « Veille aux voitures qui vont sortir, » dit-il. Après une demi-heure d'attente, un jeune homme, très élégant, sortit de l'hôtel, non pas en voiture, mais à pied. « Voilà, » dit aussitôt Similor, « pas vrai qu'il est mignon, monsieur le comte ?» Il voulut se lever, et Saladin l'arrêta. Ce fut seulement lorsque Hector de Sabran eut fait une 50aine de pas en remontant vers la rue de la chaussée d'Antin que Saladin commença à le suivre, en disant « Quand même, il faudrait le filer toute la journée, on saura ce qu'on peut savoir. » La première étape ne fut pas longue. Monsieur le comte se rendit tout simplement au café Désiré pour lire les journaux et prendre son chocolat. Saladin était tout guilleré. Comme Similor, dont la curiosité s'exaltait, demandait des explications avec insistance, Saladin lui toucha la joue paternellement et lui dit « Ma vieille, c'est une invention délicate et de longueur. On versera plus tard dans ton sein les confidences indispensables. En attendant, tu as un rôle, sois à la hauteur de la mission que je vais te confier. » La mission consistait à faire le tour du pâté de maison pour se poser en sentinelle à l'autre entrée de la maison Désirée, dans la rue Lepelletier, tandis que Saladin resterait à la porte donnant sur la rue Lafitte. « Comme ça, dit-il, on ne pourra pas le manquer. Voilà la consigne. S'il sort de ton côté, tu le files. Quand même, il irait aux antipodes. Tu marques toutes les maisons où il s'arrêtera et tu viens me faire ton rapport. » « Mais à quoi peut-il nous être bon, ce jeune premier-là » demanda Similor. « Tu le sauras un jour, et ce sera ta récompense. Au galop !» Monsieur le marquis de Saladin, resté seul, se promena de long en large sur le trottoir opposé. Les coulissiers, ses honorables confrères, qui abondent dans ce quartier, le reconnurent sans doute, mais respectèrent sa méditation, pensant « Il avale un sabre pour son déjeuner, le marquis. » Ce ne sera pas encore demain qu'il fera concurrence à la maison Rothschild. Saladin ne rêvait peut-être pas de faire concurrence à la maison Rothschild, mais son imagination, agréablement surexcitée, lui montrait un coffre-fort large, profond et solide, tout plein de rouleaux d'or et de billets de banque, protégé par la plus compliquée de toutes les serrures de sûreté. Après une heure d'attente, pendant laquelle son estomac à jeun lui parla plusieurs fois, il vit sortir un garçon de la maison désirée, qui courut chercher un coupé sur le boulevard. Le coupé était pour monsieur le comte, qui laissa le restaurant frais et dispo après avoir pris son chocolat. Le coupé tourna l'angle du boulevard et trotta vers la Madeleine. « Papa va dinguer, » se dit Saladin, « mais c'est un détail. Ce qui m'afflige, c'est de ne pas pouvoir user ses jambes au lieu des miennes. » Il ne fallait pas penser à avertir Similor. Le cheval du coupé était par hasard un trotteur passable, et tout ce que put faire Saladin, ce fut de ne le point perdre de vue. Il était maigre, ce Saladin, il avait de longues jambes effilées comme celles d'un cerf, et une haleine à rester 3 minutes sous l'eau. Quand le coupé s'arrêta à une demi-lieue de là, devant la porte d'un magnifique hôtel du faubourg Saint-Honoré, c'est à peine si Saladin avait au front quelques gouttes de sueur. Monsieur le comte paya le coupé et disparut derrière les vantaux de l'élégante porte cochère qui se referma. Le cœur de Saladin n'avait pas battu pendant sa course, mais à ce moment il s'agita doucement. « C'est de la chance, » se dit-il, « je parierais 3 francs que je suis tombé du premier coup sur le nid de l'oiseau. » Il regarda l'hôtel attentivement. C'était une de ces splendides demeures bâties entre cour et jardin, dont la façade regarde le faubourg et qui déploie sur l'avenue Gabriel leur arrière-face plus riche encore. Je ne sais pourquoi Saladin songea. C'est tout près de l'hôtel de Pralin, où il y eut un duc qui tua une duchesse. Comme il pensait cela, un homme le heurta en passant. Saladin ôta son chapeau et s'écarta, car il était prudent et poli. L'homme qui l'avait heurté ne le vit même pas. C'était un personnage de haute taille, très brun, de poils de peau, mais ayant déjà dans sa barbe et dans ses cheveux des touffes grisonnantes. Beaucoup de gens vous diront que la richesse se devine, indépendamment du costume ou de tout autre signe extérieur, y compris la distinction du visage et de la tournure. Il y a plus ce signe subtil qui est comme la couleur ou l'odeur de la richesse, et qui est souvent le contraire absolu de la distinction. Saladin aurait parié que ce personnage au teint de bistre était pour le moins millionnaire. Celui-ci entra dans une allée qui faisait face au magnifique hôtel et s'y cacha, maladroitement, comme ces barbons de comédie qui jouent le rôle d'espion en laissant voir à tous les fils blancs dont sont cousus leur finesse. Saladin n'était pas un esprit romanesque, tant s'en faut. Il repoussa l'idée trop commode que cet homme pouvait bien être le fameux duc qui lui avait donné une pièce de 20 francs au guichet de la rue Cuvier. C'eût été, à son sens, un bonheur excessif que de tomber ainsi du premier coup au milieu d'un drame qui aurait troublé si favorablement l'eau où il se proposait de pêcher. Et pourtant, ses vagues souvenirs s'éveillaient. Il était certain que l'homme du guichet de la rue Cuvier, l'homme qui avait offert des primes aux agents de la police pour retrouver Petite Reine, le duc de Chavès, enfin, le mari actuel de la Gloriette, avait cette peau de bistre et cette barbe noire comme de l'encre. Involontairement, Saladin répéta en lui-même, et cette fois avec un sourire cruel, « C'est tout près de l'hôtel de Pralin, où il y eut un duc qui tua une duchesse. » Un assez long temps se passa. Les yeux ronds de Saladin dévoraient les comestibles étalés derrière les carreaux d'un restaurant voisin, mais il était trop prudent pour courir la chance de perdre une occasion pareille en écoutant le cri de son appétit. Il chercha bien du regard un boulanger qui fut en vue de l'hôtel. N'en trouvant point, il se résigna stoïquement à supporter la faim plutôt que d'abandonner son poste. Son point de départ était assurément assez vague. La somnambule de la rue Tickton ne lui avait pas dit autre chose, sinon qu'une grande dame semblait prête à dépenser des sommes considérables pour retrouver un petit bracelet sans valeur. Un seul nom avait été prononcé, celui du jeune Hector de Sabran. Quant à la grande dame, Saladin n'avait aucun motif assuré de penser qu'il fût réellement à la porte de sa demeure, et à supposer même que l'hôtel fût réellement à elle, Saladin n'en pouvait conclure que la maîtresse de l'hôtel fût justement la Gloriette, c'est-à-dire Madame la Duchesse de Chavès. D'un autre côté, cet incident du prétendu millionnaire qui l'avait heurté tout à l'heure en passant n'acquérait de valeur que si l'hôtel d'en face appartenait bien véritablement aux Chavès. Toutes ces choses tournaient dans un cercle vicieux. Et pourtant, Saladin, à mesure que les minutes s'ajoutaient aux minutes, sentait grandir en lui une conviction profonde. Il avait beau se gourmander lui-même et se dire qu'aucun fait positif n'étayait son espoir, ce n'était plus de l'espoir qu'il avait, c'était presque une certitude. Il était aux environs de midi quand le comte Hector avait renvoyé sa voiture devant la porte de l'hôtel. 2 heures sonnèrent à une horloge voisine. Saladin se dit résolument « On passera la nuit s'il le faut, on a le temps ». Il ajouta « Mon bonhomme noir n'a pas eu la même patience que moi, il était lassé de faire faction ». L'allée, en effet, était vide derrière lui, mais un cigare à moitié fumé tomba au pied de Saladin. Il leva la tête, instinctivement, et vit briller 2 gros yeux derrière les persiennes entr'ouvertes d'une fenêtre de l'entresol. « Tiens, tiens, murmura-t-il, ça se complique, mon Richard a trouvé une autre guérite. » La porte cochère de l'hôtel s'ouvrit en ce moment à 2 battants. Dans la vie du marquis Saladin, les émotions n'abondaient pas. Il n'avait jamais aimé ni père ni mère, ni frère ni sœur, mais le cœur peut battre sans cela. Saladin s'aimait lui-même incomparablement. Il s'agissait en ce moment de lui-même. Il fut obligé de s'appuyer au volet d'une boutique parce que ses jambes faiblissaient sous lui. Qu'allait-il voir? Sa fortune? Sa ruine? Avait-il gagné ou perdu la première manche de cette romanesque partie qu'il préparait depuis tant d'années? La porte cochère restait ouverte et rien ne paraissait. Derrière les persiennes de l'entresol, l'homme à la barbe couleur d'encre moisie toussait en allumant un second cigare. L'âme entière de Saladin était dans ses yeux. Il ne se faisait pas illusion. Il y avait 14 ans qu'il n'avait vu la Gloriette, et encore pouvait-on dire qu'il l'avait entrevue seulement, une fois à la baraque de Madame Canada, une fois sur la place Mazas, au moment où elle confiait Petite Reine à Madame Noblet, la bergère. Il n'avait pas l'espoir de la reconnaître dans le sens ordinaire du mot, mais c'était pour cela un esprit bien trop sage. Il avait présente dans ses moindres détails la figure de Mademoiselle Saphir, et il se disait, avec une certaine apparence de raison, « Je reconnaîtrai la mère par la fille ». Le pavé de la cour sonna sous les pas des chevaux, et 2 palefreniers se montrèrent habillés de longues camisoles groseilles. Ils vinrent jusqu'à la porte, maintenant 2 fringants chevaux. Le comte Hector était sur l'un. L'autre portait une amazone vêtue de drap noir avec le chapeau mexicain entouré d'un voile. Saladin, par un mouvement irrésistible où il y avait plus que de la curiosité, traversa la moitié de la rue à la rencontre du cavalier et de l'amazone derrière lesquels se refermait le portail de l'hôtel. Sa première pensée fut celle-ci. Elle est trop jeune. Et par le fait, c'était une jeune femme pleine de grâce et de beauté qui accompagnait l'heureux comte Hector. Sous son voile, on apercevait sa figure un peu pâle mais souriante, et ses grands yeux avaient cet éclat mouillé qui n'appartient qu'à la jeunesse. Saladin était si près que le comte Hector fut obligé d'arrêter son cheval pour ne le point heurter. « Rangez-vous donc, imbécile !» dit involontairement le jeune gentilhomme. Saladin ne se dérangea ni ne se fâcha. Il était sous le coup d'un étonnement qui allait jusqu'à la stupéfaction. Sa seconde pensée fut celle-ci. Ah, « C'est elle, toute pareille à autrefois. Elle n'a pas même vieilli. » La ressemblance avec Mademoiselle Saphir, sur laquelle il comptait pour reconnaître cette fée qui allait lui donner la richesse, n'existait même pas. Point n'était besoin de cela. Saladin retrouvait, par une sorte de miracle, malgré l'injure de 14 années, la jeune et belle créature qui s'était assise à quelques pas de lui jadis sur les pauvres banquettes du théâtre français et hydraulique, et qui, le lendemain, avait embrassé en pleurant petite reine, sa fille adorée, que, par le fait de lui, Saladin, elle ne devait jamais revoir. Il n'y avait qu'une seule différence, encore était-elle produite par le costume que portait la Gloriette. La troisième pensée de Saladin fut un hommage rendu à l'aisance merveilleuse avec laquelle l'ancienne Gloriette portait ce costume nouveau. « On dirait qu'elle n'a jamais fait autre chose, » grommela-t-il entre ses dents, tandis que les deux beaux chevaux remontaient au pas le faubourg Saint-Honoré. « Gare !» lui cria un cocher d'omnibus. Saladin, qui était resté au milieu de la rue, sauta de côté vivement. « Gare !» lui cria un cocher de fiacre. Saladin n'eut que le temps de bondir sur le trottoir, et de là, son regard, tourné par hasard vers la boutique où naguère il s'était appuyé, rencontra la fenêtre de l'entresol. Le bonhomme noir avait repoussé les persiennes. Il s'accoudait commodément au balcon et suivait d'un œil content, mais un peu moqueur, la promenade du cavalier et de l'Amazone. Une étrange gaieté entr'ouvrait sa large bouche et montrait au milieu de ce visage si sombre une rangée de dents blanches qui brillaient comme celle d'un carnassier. Dans ces maisons que l'imagination bâtit à force d'hypothèses et qui tremblent au vent comme des châteaux de cartes, quand une des suppositions fondamentales arrive à devenir une vérité, tout l'édifice se consolide instantanément. L'identité de la Gloriette, devenue dame et maîtresse de l'hôtel de Chavès, établissait par contre-coup l'identité du bonhomme noir et blanc qui était bien évidemment monsieur le duc de Chavès, surpris dans ses fonctions de mari jaloux. Saladin ne savait pas encore à quoi cette circonstance pourrait lui servir, et il se demandait pour quelle raison monsieur le duc louait un entresol pour regarder sa femme, tandis qu'il eût pu la voir aussi bien derrière les persiennes de son cabinet. Il était à la source des renseignements et voulut savoir, car pour les diplomates de sa sorte, rien n'est à négliger. Il pesa sur l'éblouissant bouton de cuivre qui mettait en mouvement la sonnette de l'hôtel de Chavès, et la porte s'ouvrit aussitôt. Saladin entra d'un air dégagé et demanda au concierge, bien mieux habillé que lui, s'il était possible de voir monsieur le duc. « Son Excellence est en voyage depuis 2 jours, » répondit le fonctionnaire avec majesté, « et quand on veut avoir l'honneur d'être reçu par Son Excellence, on écrit pour demander audience. » Saladin remercia, salua et s'en alla. En s'en allant, comme il avait l'habitude de ne rien laisser traîner, il ramassa au coin d'une borne, dans un petit tas de poussière, un objet brillant qui pouvait être en or et le glissa dans sa poche. Ainsi, le grand monsieur Jacques Lafitte, celui qui demanda un jour pardon à Dieu et aux hommes d'avoir fait la révolution de juillet, commença-t-il sa fortune légendaire en sauvant une épingle. Saladin était fixé désormais sur les motifs qu'avait eu son excellence pour choisir, en qualité d'observatoire, cette fenêtre d'entresol. Son excellence jouait décidément tout au long la vieille comédie de l'époux soupçonneux qui veut surprendre sa femme. Elle était fermée maintenant, cette fenêtre. Monsieur le duc avait achevé sa besogne comme Saladin la sienne. « C'est égal, se dit ce dernier, il n'a pas fait une si bonne journée que moi. » Content de lui et voyant l'horizon couleur d'or, il entra au restaurant dont l'étalage lui avait donné le supplice de Tantale, et contre ses habitudes d'économie, il se paya un plantureux déjeuner dînatoire. Pendant cela, le comte Hector et sa belle compagne, qui était bien réellement madame la duchesse de Chavès, avaient tourné le coin de l'avenue Marigny et gagné la grande avenue des Champs-Élysées. Le comte Hector était un charmant cavalier, assurément, mais madame la duchesse revenait d'un pays où les femmes font des miracles à cheval. C'était une Amazone accomplie. La foule élégante qui encombrait à cette heure la grande route du lac la connaissait et lui faisait un succès de curiosité. Ce sont, dit-on, des boîtes à médisance, tous ces équipages coquets qui vont cueillir chaque jour à la même heure la plus enviée de toutes les voluptés parisiennes, la promenade au bois. Ces bouquets de femmes qui émaillent si brillamment l'avenue de l'Étoile ont la réputation de cacher de longues et innombrables épines. Peut-être, en effet, médisait-elle de Madame la Duchesse et de son trop jeune cavalier servant, mais il n'y paraissait point en vérité au milieu de tant de saluts empressés et de bienveillants sourires. Par exemple, on ne ménageait pas Monsieur le Duc absent. Toutes les dames s'accordaient à dire que c'était un sauvage, d'autant plus disgracieux qu'il pouvait passer pour un ancien bel homme, la chose la plus détestée qui soit au monde. C'était un joueur effréné, un duelliste de farouche humeur qui gardait sur le terrain la sombre mine d'un tyran de mélodrame. C'était un buveur que le vin ne savait pas égayer, et ses histoires galantes elles-mêmes avaient je ne sais quelle funèbre couleur de tragédie. Ah, certes, dans ces charmants comités qui roulaient en ressassant l'éternel radotage des nouvelles à la main, la malveillance n'était pas pour Madame la Duchesse. Elle eût été radicalement excusable si on avait su à peu près d'où elle venait. Mais on ne le savait pas, et c'était terrible. Vous figurez-vous une duchesse dont on ne peut pas dire le nom de demoiselle? Du reste, elle tenait à sa place, et on lui en savait gré. Le monde ne la voyait guère que dans les circonstances officielles, et malgré l'immense fortune de son mari, elle n'était jamais entrée dans la lice où combattent les éblouissantes. À l'Arc de Triomphe, Hector et sa belle compagne cessèrent de suivre le chemin de tout le monde, tandis que la cohue moutonnière des équipages tournait à gauche et s'engouffrait fidèlement dans l'avenue de l'impératrice, qui est le seul couloir authentique par où l'on puisse arriver au bois, Hector et la duchesse, suivant droit leur chemin, prirent un temps de galop sur la route de Neuilly. Ce fut là seulement qu'ils commencèrent à causer. « Il y a quelque chose d'heureux dans l'air, dit la duchesse. Il me semble que je vais apprendre de bonnes nouvelles. » Je n'ai jamais cessé de chercher, parce que cet amour était tout pour moi, et que rien, rien au monde ne pourrait le remplacer, mais j'ai souvent désespéré. À mesure que le temps passait, je me disais, les chances diminuaient. Plus d'une fois, je me suis éveillé la nuit, oppressé par une angoisse inexprimable. J'avais rêvé qu'elle était morte. « Elle a été toute votre vie, » murmura Hector pensif, « comme vous l'aimiez. » « Oui, mon bel amoureux, toute ma vie, et je ne saurais exprimer l'ardeur de ma tendresse. Il y a dans mes souvenirs un homme sincèrement aimé, un seul. Il est des heures où je doute encore de son abandon, parce que son caractère était noble et que chez lui une lâcheté ne me semble pas possible. C'est une chose singulière que la vivacité de ses impressions, après tant d'années écoulées, loin d'aller s'éteignant, les souvenirs de cette époque, qui fut en réalité toute ma vie, sont plus nets de jour en jour. J'ai fait ce travail charmant et cruel de voir grandir ma petite reine, de suivre en elle le changement que produit chaque semaine, chaque mois, de deviner en quelque sorte comment elle l'a grandie, embellie, comment elle s'est transformée. Et il me semble qu'à l'aide de ce pauvre calcul où j'ai dépensé tant d'heures, si je la voyais là, devant moi, je la reconnaîtrais. » Hector souriait, tout ému. « Comme vous auriez été heureuse, belle cousine, pensa-t-il tout haut, et comme cet homme eût été heureux. « Ah oui, » fit-elle, « je l'aurais bien aimé à cause d'elle. Ah, c'était un gentilhomme aussi, mais non pas un grand seigneur comme Monsieur le Duc. Je trouvais qu'il m'aimait trop, pauvre folle que j'étais, parce que je ne pouvais lui donner, en échange de sa passion, que mon cœur, où ma Justine tenait une si grande place. Enfin, ne parlons que d'elle. On ne meurt pas de joie. Sans cela, j'aurais peur de ne lui donner qu'un baiser, si Dieu m'exauce enfin et la rend à ma folie. « Vous n'avez jamais songé, demanda le jeune comte, à chercher ce pauvre bon Médor dont vous m'avez raconté le dévouement si simple et si touchant. « Depuis mon retour en France, répondit Madame de Chavès, j'ai fait l'impossible pour retrouver Médor. Tout a été inutile, il a disparu, il est mort sans doute. Et mon oncle a cessé de vous prêter son aide. « Monsieur le Duc est toujours bon pour moi. Tous mes désirs sont devancés par sa courtoisie. Seulement, la grande passion qu'il a entraînée vers moi jadis est éteinte, et une sorte de galanterie respectueuse l'a remplacée. Il a repris sa liberté sans me rendre la mienne, et Puisque nous en sommes sur ce sujet, Hector, nous allons causer sérieusement. Je ne sais pas si votre oncle est jaloux ou s'il feint d'être jaloux, mais comment ? S'écria le jeune homme vivement. Vous seriez soupçonné. Écoutez-moi, reprit Madame de Chavès. Nos beaux jours sont passés. Avant de partir, Monsieur le Duc m'a fait comprendre que vos assiduités à l'hôtel lui portaient ombrage. Mais ce n'est pas possible, dit Hector. C'est lui qui a fait naître, c'est lui qui a favorisé ses assiduités. Et maintenant que j'ai pour vous, belle cousine, une amitié de frère...
Dites une tendresse de fils, interrompit Madame de Chavès.
J'ai dit de frère, répéta Hector en rougissant. Et puis il se tut. La belle duchesse secoua la tête en souriant.
Voilà le danger, murmura-t-elle, de rester jeune si longtemps. Mais vous me comprenez, Hector, que Monsieur le Duc ait tort ou raison, je suis à sa merci. J'ai besoin de son influence et de sa fortune pour continuer mes recherches.
Vous parlez, dit Hector, qui la regarda d'un air étonné, comme s'il dépendait de mon oncle de changer votre situation.
La duchesse ralentit le pas de son cheval brusquement. Ils étaient à la hauteur de la porte Maillot.
« Vous voulez entrer au bois ?» demanda le jeune comte.
« Il y a moins de monde à la porte d'Orléans, » répondit Madame de Chavès, qui remit son cheval au trot. Un instant, la route se poursuivit en silence.
Hector de Sabran, qui appelait Madame la Duchesse ma belle cousine et le duc, son mari, mon oncle, était en réalité le neveu propre de Monsieur de Chavès, dont la sœur cadette avait épousé, à Rio de Janeiro, Monsieur le comte de Sabran, attaché à l'ambassade française sous le règne de Louis-Philippe. Hector était le fruit de cette union. Il avait perdu, fort jeune, son père et sa mère. À part un cousin du côté paternel, qu'on avait nommé son tuteur, il n'avait d'autres parents que Monsieur de Chavès. Monsieur de Chavès, à son retour de France, l'avait appelé près de lui. Son accueil avait été tout paternel, et il l'avait présenté à sa femme en disant « Lilias, voici le fils de ma sœur chérie, dont je vous ai parlé si souvent. » Or, Monsieur de Chavès, depuis 12 ans que Lilias ou Lily le connaissait, n'avait jamais prononcé le nom de sa sœur chérie. C'était un étrange caractère que ce Monsieur de Chavès. Lily avait dit vrai en parlant de sa bonté. Sa générosité n'avait pas de bornes, mais il semblait parfois qu'il y eût une lacune dans son intelligence et que sa nature morale fût affectée d'une maladie. Son père, avant lui, avait fait comme lui, il s'était mésallié. Monsieur le duc de Chavès était le fils d'une créature splendide qui avait ébloui Rio de Janeiro quelques 40 ans auparavant et qui était soupçonné d'avoir du sang mêlé dans les veines. Ce roman de fougueux amour avait eu un dénouement sombre, sur lequel planait du reste le mystère le plus complet. Monsieur de Chavès, le père, avait été trouvé mort dans son lit, en un grand vieux château qu'il possédait dans la province de Coimbra, au Portugal. Il fut constaté que sa femme avait quitté le château la veille au soir, emmenant avec elle son fils, alors âgé de 11 ans, et une petite fille, plus jeune de 2 ans. Ce fils était Monsieur le duc de Chavès actuel, le mari de la Gloriette. Cette petite fille devait être la mère du comte Hector de Sabran. Monsieur le duc de Chavès avait été élevé par sa mère au Brésil. Une sorte de réprobation sourde entourait cette femme, malgré son immense fortune. C'était à ce point que la sœur du duc, mère d'Hector, belle et pourvue d'une dot considérable, aurait eu de la peine à trouver un époux si Monsieur de Sabran, étranger et ignorant la funeste histoire de cette famille, ne fût devenu amoureux d'elle à la française et ne l'eût épousée en quelque sorte par impromptu. Monsieur le duc, élevé dans les immenses possessions de sa famille au fond de la province de Pará, n'avait jamais frayé avec les jeunes gens de son âge. Entouré de serviteurs et de parasites qui au Brésil appartiennent volontiers à la pire espèce d'aventuriers, il avait dépensé son adolescence à des plaisirs violents, à de sauvages débauches. Sa mère encourageait ce genre de vie par une conduite plus que suspecte. Il y avait à l'habitation des scènes brutales et l'orgie finissait parfois dans le sang. Après la mort de sa mère, arrivée alors que Monsieur le Duc touchait à sa 20e année, il avait quitté cette terre pour se présenter à la cour où sa fortune et son nom lui assuraient un accueil favorable. Le décès de la duchesse Douairière rejetait du reste dans l'ombre un passé de malheur ou de crime dont le jeune duc ne pouvait être complice. La première fois qu'on annonça à l'audience impériale Dom Hermann Maria de Guarda, duc de Chaves, un grand sentiment de curiosité fut excité parmi les courtisans, et dans ce sentiment, il y avait déjà de la jalousie. Hermann Maria était un superbe cavalier, mais sa complexion brune et la couleur basanée de sa peau trahissaient son origine mulâtre, au dire des courtisans portugais et brésiliens de sang pur, qui sont par le fait trois fois plus basanés que les Carterons. Dès cette première audience, il demanda d'un ton froid et fier à Sa Majesté l'honneur d'être employé à son service. On monte vite là-bas quand on a derrière soi un nom et des millions. À 24 ans, Hermann Maria, duc de Chaves, était un haut personnage, et il put doubler d'un seul coup sa fortune en épousant une des plus belles, une des plus riches héritières de l'Empire. Il fut amoureux pendant 6 mois et passa ses jours au pied de sa duchesse. C'était ainsi quand il aimait, il adorait en esclave. Au bout de 6 mois, il enleva une chanteuse italienne du grand théâtre et lui meubla un palais. Ce fut alors une existence d'orgie à tout craint. Ces folies de joueurs scandalisèrent une ville où toutes les classes de la population poussent l'amour du jeu jusqu'à la démence. Un soir, dans une académie de Monte, il tua un colonel mexicain dans un duel au couteau et fut blessé de 2 balles par un citoyen des États-Unis dans un duel au revolver. Il y avait bal à la cour. Il rentra chez lui s'habiller et dansa un quadrille avec le bras en écharpe. Cela le mit à la mode. Une belle dame, dont les conseils avaient de l'influence sur le chef de l'État, demanda pour lui une mission diplomatique et l'obtint. Ce fut ainsi qu'il vint à Paris, chargé de régler officieusement des indemnités fort importantes. À Paris, bien qu'il tînt grand état, la différence absolue des mœurs et la gaucherie qu'il avait à s'exprimer dans notre langue exagérèrent sa timidité naturelle. Il vécut à l'écart. Dans le monde parisien, il passa pour une sorte de sauvage, poussant l'austérité des mœurs jusqu'au stoïcisme. Par le fait, ses fredaines se bornaient à payer à une danseuse les appointements d'un ministre. Ce fut le hasard qui plaça sur sa route la Gloriette, un jour qu'il visitait le jardin des plantes. La passion le prenait comme un coup de foudre. Là-bas, au Brésil, il eût fait enlever la jeune femme dès le soir même. À Paris, il avait peur. Il se mit à jouer le rôle d'un sombre et maladroit céladon. Pendant des jours et des semaines, il suivit la Gloriette, comme s'il eût été son ombre. Nous savons comment se termina sa poursuite, et par quel grossier mensonge il trompa l'amour maternel de la Gloriette. Nous savons aussi qu'il lui promit mariage. Nous n'ajouterons plus qu'un mot. Il y avait un vivant obstacle à l'accomplissement de cette promesse. La première duchesse de Chaves était sur le bâtiment qui emmenait la Gloriette au Brésil.